À partir du 11 mai, le plafond des paiements sans contact passera de 30 à 50 euros. Avec ce mode de paiement, les risques de contamination sont fortement diminués par rapport au paiement par carte bancaire avec un code à taper. Il évite également le maniement de pièces et de billets.
Le paiement sans contact est apparu comme un geste barrière supplémentaire dans la crise contre le Covid. En temps normal, chaque jour, les Français retirent 500 millions d'euros aux distributeurs automatiques. Mais pendant le confinement, c'était la moitié. Est-ce un soudain désamour pour le cash parce que porteur éventuel du satané virus, ou est-ce tout simplement le signe de la baisse de la consommation le temps de l'enfermement à la maison ? Toujours est-il qu'il y a une tendance de fond depuis des années. C'est le réflexe carte bleue pour tout acheter, y compris parfois pour de très petites sommes. Cependant, et là c'est très paradoxal, chaque année, la demande de billets en euros augmente.
Le billet de banque devient de moins en moins un instrument de paiement et de plus en plus un instrument d'épargne, de thésaurisation.
Mais aujourd'hui, les transactions ne sont plus forcément avec des euros en papier. Elles sont parfois dématérialisées. L'essor des crypto-monnaies en est la preuve. Celui, à une échelle plus restreinte géographiquement, des monnaies locales, en est une autre.
Je pense que ça a un impact économique local, un impact social, puis aussi bien sûr un impact environnemental parce que du coup on est dans des circuits beaucoup plus vertueux.
Pour commencer ce reportage, allons dans un lieu où une équipe radio n'était jamais allée jusqu'alors, l'imprimerie de la Banque de France. Elle est située à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme. Ici, chaque année, jusqu'à 2,5 milliards de billets sont fabriqués. Vous pouvez les reconnaître d'ailleurs très facilement, ils portent la lettre U avant la série de numéros. Dans ce site ultra sécurisé, Juliette Micheneau et Loïc Frénéa se sont littéralement retrouvés devant des planches à billets. Voici leur reportage, et si nos espèces étaient en voie de disparition.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Et nous voilà devant l'imprimerie de la Banque de France. Le site est immense, hein. C'est le long d'un boulevard, il y a à peu près 200 mètres de murs d'enceinte, ne serait-ce que sur une face, un mur à 4-5 mètres de hauteur, grande grille, des caméras un peu partout. On est vraiment à la bordure entre Chamalières et Clermont-Ferrand. Le site est tout de briques rouges. On est sur un bâtiment du début 20e, hein, puisque la production de billets a commencé ici en 1919. On est attendu, mais il va falloir montrer patte blanche, hein, parce que le site est ultra sécurisé. On va montrer des visiteurs. Bonjour.
Joli micro là. Impressionnant. Hein.
Pas aussi impressionnant que le dispositif de sécurité.
N'est-ce pas ?
On va tout de suite aller à l'accueil pour vous donner les badges. C'est là où il faut donner vos cartes d'identité.
Bonjour.
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 C'est Michel.
Alors, dans la carte d'identité.
Allez-y. Donc là, on se trouve dans la première enceinte, trois zones de sécurité au niveau du site, et on ira dans la troisième enceinte, celle qu'on appelle zone à régime restrictif, donc zone de haute sécurité, où à partir de là, donc, uniquement les personnes qui travaillent dans cette enceinte ont le droit de rentrer avec les badges.
Donc on a beaucoup de chance d'être ici alors.
Vous faites partie des rares personnes à pouvoir rentrer dans la zone de production des billets de banque. Voilà, donc je vous invite à passer au premier sas.
Donc il faut badger, c'est ça ?
Notre matériel est scanné, aucun téléphone, pas même ceux des salariés, n'est admis à l'intérieur. Les nôtres resteront dans le bureau de Michel François.
Sur votre gauche.
Responsable de la communication, il sera notre guide, ça fait plus de 35 ans qu'il est dans la maison.
On va passer les premiers sas de sécurité, où là, moi, je rentre avec le contrôle biométrique. Mais vous, vous ne l'avez pas, donc je vais vous contrebadger, comme je vous l'ai expliqué. Une personne externe à la fabrication des billets ne peut pas rentrer en zone de haute sécurité si elle n'est pas invitée par une personne qui est habilitée.
Il y a des grands sas en vert, en fait, et on va pouvoir passer de l'autre côté.
Votre badge, vous le présentez ici. À ce moment-là, la porte va se déverrouiller, vous prendrez position au centre. Et moi, je vous autoriserai à rentrer une fois que vous serez À l'intérieur.
C'est un par un.
Un par un, oui. Vous m'attendez.
On se revoit de l'autre côté. Alors, on y va, le badge. Ah, c'est bon, c'est vert.
Voilà, donc on est en sous-sol, on est au niveau de cette grande serre. On commence à voir les odeurs des encres, des solvants. À partir de là, on est dans la dernière zone haute sécurité. La production des billets n'est pas très loin.
Et nous allons suivre les quatre étapes pour imprimer un billet de banque.
Donc on arrive à la machine Suzy. Donc première étape d'impression l'offset. Vous avez donc une cabine de commande, de pilotage. On va s'approcher de nos collègues imprimeurs. Ce sont eux qui connaissent leur machine. Ils connaissent leur métier, ils en parleront beaucoup mieux que moi. Voilà, on est sur une impression de billets 20 euros.
Ce qui fait quand même tout drôle parce que là on a des grandes plaques roses pour l'instant avec. On voit que c'est écrit 20 euros mais ça ressemble absolument pas à un billet terminé, c'est très étrange.
C'est le premier passage où le billet est fait. Donc là c'est du papier qui est blanc avec.
Il y a quand même déjà des petites traces.
Des signes de sécurité, ouais. Dans le filigrane, la fenêtre, la sérigraphie, le fil magnétique. Donc nous, on le monte en production. Mais en fait, on fait un système de long stop, ce qui permet de ne pas arrêter la machine.
Et si on veut comparer ça à ma petite imprimante de bureau, en gros, il faut charger le papier en continu.
Exactement. Et le but, c'est que la machine ne s'arrête pas pour faire la production de la journée, quoi.
Et ça imprime rapidement?
Là, on roule à 9 000 feuilles. Donc, sur un poste du matin, on arrive à rouler 10 piles. 10 piles de 6 000 feuilles, donc ce qui représente 60 000 feuilles.
On va aller voir ça là-haut. Du coup, il faut monter d'un étage.
Allez-y, je vous en prie. Allez. Faites attention, elle n'est pas tombée. Hein. Donc là, on arrive sur un poste qui s'appelle le margeur. Donc, ce qui nous permet de rectifier nos billets par rapport à la feuille.
Donc rectifier pour qu'elle soit vraiment bien alignée, quoi.
Bien alignée par rapport à notre impression de billets derrière.
Donc c'est un tapis roulant et ça défile en continu.
Ça défile en continu, ouais. On n'hésite pas à mettre de l'encre dans les encriers. On préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Parce qu'il y en a pas assez, il y en a plus sur les feuilles et après ça pose problème, quoi.
Et donc là on est sur des plaques de 20 euros. Donc,
ouais,
donc sur les petites étagères derrière, on a du bleu turquoise. On a
exactement toutes nos références d'encre et on sait que telle référence va sur cet encrier là.
Toutes les nuances de bleu pour faire un beau 20 euros.
Exactement. Et juste avant, on était sur du 50 euros qu'on a fini, je crois, la semaine dernière.
Bon, mais là, ça fait drôle de se balader avec une feuille comme ça. Elle fait quoi, 1 mètre sur 1 mètre quasiment.
Regardez le nombre de billes à la feuille, vous avez.
On passe le calcul. Ouais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Et de l'autre côté
6 fois 9.
Oh, 6 fois 9.
54 fois 20 fois 6000 feuilles. Ouh. Et on roule 10 piles par poste. Faites le calcul.
Je préfère pas, ça donne le
faut temps. Faut pas. Nous,
vous y pensez pas
du
vous.
Tout.
C'est un,
non, c'est un truc.
C'est du papier,
on est plus
quoi.
sur de la qualité et on calcule rarement ce genre de choses.
Vous pensez bien qu'on l'a fait le calcul. 54 billets de 20 euros. 10 piles de 6000 feuilles, c'est l'équivalent de 64 800 000 euros qui transitent entre les mains des imprimeurs. Alors notre billet est loin d'être fini. Deuxième étape, la sérigraphie. On va imprimer ce nombre couleur émeraude en bas à gauche du billet qui correspond à sa valeur. En l'inclinant, vous aurez l'impression d'une barre de lumière qui se déplace. C'est le fameux effet rolling bar créé récemment par la Banque de France pour sécuriser ses billets.
Là, on se dirige vers la machine Swat, Super Orlov Intaglio. On entend son fonctionnement. Je ne sais pas si vous entendez ce bruit sourd. Boum, 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 boum.
Et puis voilà la troisième étape, l'impression en relief.
Là, il y a 4 personnes alignées. On part de la pile de papier des 6000 feuilles, c'est ça. Et puis après, il faut redécouper la pile en plusieurs morceaux pour que ça rentre dans la machine.
Et ben là, on est à la préparation papier. On travaille le papier, donc on l'aère. Le papier peut être légèrement collé.
Donc la grosse palette de 6000 feuilles, en gros, il faut l'aérer un petit peu.
Ouais, on travaille le papier, on met des cales, histoire qu'il soit le plus plat possible. Donc histoire qu'il passe le mieux possible dans la machine.
Et il faut faire ça avec chaque pile.
Chaque pile, ouais.
Parce que cette machine-là, donc, elle s'occupe de faire toute la partie en relief du billet, c'est ça?
C'est ça, l'impression en relief, l'impression taille douce.
Le nom d'impression taille douce qui contraste avec le côté un peu dur de la machine.
C'est assez paradoxal parce qu'on a plus de 40 tonnes de pression et on arrive à faire des micro-lettres, une impression qui est vraiment fine en relief, avec toute cette pression en fait. Et après,
est-ce que le billet est terminé au bout de cette machine-là ou pas encore?
Non, il reste le numérotage et en fonction des produits, le pelliculage ou non.
Ça, c'est la quatrième étape, imprimer un numéro unique à chaque billet et le vernir.
Allez, la dernière des machines, on met l'encre UV et le vernis. Une merveille de mécanique.
On a été rejoint en route par le directeur de production du site.
Oui, bonjour, Pierre-Yves Boissineau, donc je suis en charge de la production sur le site de Chamalières.
Merci de nous rejoindre, on va aller compter les billets alors.
C'est ça. Bonjour. Vous allez bien ?
Oui.
Et alors là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous ?
Nous, on recompte du coup une pile.
Donc là, elle sort de numérotation. Et ensuite, on vérifie donc par rapport à ce qui est annoncé si les comptes sont bons. Et ensuite, on ajuste en fonction si oui ou non il y a un écart.
Voilà. En gros, vous recevez une palette de 6000 feuilles, c'est ça ?
C'est ça.
Et on va vérifier que les 6000 sont bien là.
C'est ça.
Comment on fait ça ? Vous comptez à la main ?
Non, on a la machine, donc on se base au numéro de billet. Et ensuite, on vérifie avec la machine. Et donc, en cas de doute, on vérifie, on compte à la main. Et ensuite, on envoie par paquet de 500.
Et après, on vérifie là le bon nombre.
Ok, le compte est bon, il y en a 500. Donc oui, le disque, en fait, on imagine qu'on aurait une liasse de billets dans la main. Et on l'a fait glisser comme un éventail avec le pouce. En gros, c'est ça, le disque qui va effeuiller voilà. Feuille par feuille et vérifier que les 500 sont bien là. Ça fait du bien, un peu de calme.
Alors ici, nous rentrons donc dans l'atelier de comptage. Il faut savoir que vu la particularité de notre produit, l'écart d'inventaire est interdit et donc nous devons en permanence être en capacité de réconcilier.
Même une petite feuille de 54 billets, si elle est manquante, c'est un problème ?
Même un billet, c'est pas possible. Donc on doit être en permanence être en mesure d'expliquer et si un écart est constaté, d'être capable de retrouver l'écart après analyse de manière très rapide pour confirmer l'absence de manque de valeur.
Le directeur de production nous amène dans l'immense salle où des chaînes entièrement robotisées découpent les billets, les rassemblent en liasses.
Voilà, ce sont d'une machine qui effeuille les billets, c'est magnifique, des milliers de billets effeuillés devant le micro.
Pour ensuite les mettre en carton, prêts à l'expédition vers nos portefeuilles.
Donc, vous retrouvez ici les écrans de contrôle qualité. Ces écrans font la synthèse du tri réalisé par la machine. Donc chaque billet est trié de manière unitaire, passe dans un ensemble de capteurs à la vitesse de 40 billets par seconde et vous retrouvez sur l'écran une frise verte et à chaque fois que l'on voit un petit liseré rouge, ça veut dire qu'il y a un billet qui a été détruit pour une problématique qualité.
Donc qui a été évacué de la machine à ce moment-là.
Ces billets sont effectivement évacués en temps réel de la machine. Vous voyez un tuyau qui sort de la machine, donc les billets sont mis à l'état de confetti.
En effet, ça va à une vitesse prodigieuse parce que sur l'écran, on voit les chiffres de numérotation défiler. On n'a pas le temps de les voir défiler à l'unité, quoi, tellement ça va vite.
Exactement. C'est 40 billets secondes, donc c'est...
Ouais. Ça va pour l'œil humain, ça va trop vite.
Donc là, on a un défaut qui est détecté en bas à gauche du billet. Je ne connais pas le détail, je ne sais pas si c'est de l'encre ou une impureté.
Mais il y a un petit trait, en tout cas, qui ne devrait pas être là.
Et vous voyez que ça reste très léger.
C'est infime. Hein. Ouais.
C'est infime.
Ouais.
Pourtant, la machine le détecte.
Moi, en tant que commerçant, je l'accepte ce billet, je vous le dis.
Oui, mais de notre côté, on ne peut pas accepter de laisser partir ce type de défaut. Un billet neuf doit être en état parfait en sortant de chez nous. Donc ce billet est détruit.
Et alors, il y a beaucoup de pertes. Est-ce qu'on a une idée de taux de déchets, entre guillemets ?
Et il peut varier entre 1,5 à 5%. On a de la chance, il y a de l'expédition qui est en train de se préparer. Il y a nos collègues avec les chariots qui sont en train de faire des va-et-vient. On a les caisses qui sont prêtes. Ça, c'est de l'expédition export. La production est organisée avec deux clients chez nous, le client BCE, le billet euro, et on a aussi des clients export, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Madagascar, les Comores, etc. Quand tout ce qui est prévu de partir sera dans cette zone, on va fermer ce sas là et l'autre qui est au fond. Et à ce moment-là, la grande grille qui est à l'extérieur, là-bas, va pouvoir se fermer et les camions vont venir chercher les caisses pour pouvoir les expédier aux clients.
C'est-à-dire que les livreurs qui viennent n'ont pas accès au sas où est stockée la marchandise, entre guillemets.
Voilà.
Et ils savent ce qu'ils transportent ?
Non. Non, non. D'ailleurs, même vous, en regardant la caisse, vous ne savez pas ce que c'est.
Inter, interception.
Lors de la crise du Covid-19, la production a été stoppée pendant 5 semaines à Chamalières. Pas de pénurie de billets pour autant, les réserves stratégiques ont suffi pour approvisionner les distributeurs. Les billets fabriqués par la Banque de France peuvent se répartir en 3 tiers. Le premier est utilisé dans la zone hors euro, le 2e tiers pour nos paiements du quotidien, cette partie-là régresse, et le 3e tiers, lui, est en progression. C'est l'épargne, les bas de laine ont de l'avenir. Éric Lacourège est le directeur général en charge du réseau de la Banque de France. La première fois que Juliette Micheneau l'a rencontré, le coronavirus ne nous disait rien à l'époque. Elle a donc mené un nouvel entretien à la lumière de cette crise.
1-2-1-2, test micro. Voilà, on est en ligne. J'attends que la Banque de France se connecte.
Oui, allô ?
Oui, bonjour. Vous m'entendez bien ?
Bonjour. Alors, je vous entends très bien, bon. Comme si on était ensemble.
Vous voyez, c'est fou, hein ? Alors que je vous avoue, pour moi, c'est un peu perturbant parce qu'en fait, je suis chez moi, dans ma maison en Auvergne, j'entends en fond les petits oiseaux. C'est vrai que c'est pas du tout le même décorum. La dernière fois qu'on s'était vu, on était dans votre bureau au siège de la Banque de France à Paris, avec les lingots d'or, les stocks d'or de la France sous nos pieds. C'est pas du tout la même ambiance, mais bon. Alors, Éric Lacourège, avant cette épidémie, vous me disiez, c'est une illusion de dire qu'on pourra se passer de monnaie physique, surtout en cas de crise. Sauf que là, on s'est retrouvé face à un virus qui se transmet notamment par les mains. Les billets, les pièces ont été bannis de beaucoup de commerces. On nous a beaucoup poussé à payer par carte, si possible sans contact, avec le plafond du sans contact qui a été augmenté à 50 euros. Ça a forcément changé la donne pour l'argent liquide, non ?
Alors, on a vu au pic de la crise une baisse de 40 à 50% selon qu'on parle de valeur ou de volume des retraits aux distributeurs de billets, aux 53 000 distributeurs de billets que nous avons en France métropolitaine. Et donc ça a été bien sûr un signe aussi de la chute de la consommation, hein, puisque l'ensemble de nos concitoyens ne faisaient plus que des achats, je dirais, de nécessité. Et d'ailleurs, tous les paiements, hein, pas que le cash, ont beaucoup baissé à ce moment-là.
Alors du coup, vous l'avez dit, on a moins retiré de billets pendant cette crise. Est-ce que ça veut dire qu'on a aussi moins produit de billets pendant ce confinement ?
Ce qu'il faut avoir à l'esprit, et qui est un vrai paradoxe, c'est que nous avons en réalité une baisse de l'usage transactionnel des espèces, c'est-à-dire l'usage pour payer dans les commerçants, ainsi de suite. Ça, c'est indubitable, hein, c'est ce que je viens de dire, avec d'ailleurs en plus l'effet d'amplification de la crise Covid. Mais ce paradoxe dont je parlais, baisse de l'usage transactionnel, il se traduit par le fait qu'en parallèle, nous avons une hausse de la demande de billets. Finalement, ce qu'on peut dire en hyper résumé, c'est que le billet de banque devient de moins en moins un instrument de paiement et de plus en plus un instrument d'épargne, de thésaurisation. On a tous à l'esprit ces événements-là qui sont assez frappants, qui expliquent qu'il y a un comportement de précaution et qu'on se rabat sur du physique, y compris pour la monnaie. Quand il y a des crises, hein, notamment les crises financières, hein, la crise financière de 2008, on a vu donc un appétit de beaucoup de citoyens pour les billets de banque. Quand on a des billets de banque, on peut toujours les garantir, les avoir en paiement auprès d'une banque centrale qui est quand même l'institution la plus solide dans nos sociétés. Et donc, le cash reste un instrument de paiement moderne et qui a de l'avenir parce que c'est une garantie extrêmement forte assise sur la banque centrale.
Donc vous avez intégré en plus le paramètre crise sanitaire dans tous vos scénarios catastrophes, qu'on vive une crise sanitaire, une catastrophe environnementale, météorologique, etc. L'argent liquide reste au cœur de tout ça ?
Oui, je dois dire que dans nos scénarios de crise, nous n'avions pas dans le passé, mais je pense qu'on n'était pas les seuls, surdéveloppé un scénario aussi extrême de crise sanitaire, hein, qui nous a tous, bien sûr, immensément surpris et un peu saisis d'horreur. Hein. Donc tout ça est riche d'enseignements, et donc on rentre aussi à la Banque de France dans une phase d'adaptation extrêmement lourde de tous nos scénarios de continuité. Ça reste un des axes fondamentaux de la continuité, hein, la distribution du cash. Peut-être moins, même si ça restait quand même important pendant la crise sanitaire comme on vient de le vivre, mais très certainement dans tout un tas d'autres crises, notamment les crises financières ou les grandes crises climatiques qui, hélas, sont probablement aussi des occurrences qui vont se multiplier dans le futur. Et là, le jour où on n'a plus d'électricité et qu'on n'a plus d'électricité de façon durable, les ouragans, les tempêtes, on l'a vu aussi au Japon après la crise de Fukushima et la décélération en urgence de tout le parc nucléaire au Japon qui a entraîné des coupures d'électricité très importantes et parfois pendant plusieurs jours, quand on ne peut plus recharger un terminal de paiement, on est obligé, comme disent les Anglais et les Américains, back to basics, hein, on revient aux basiques. Pour acheter à manger, s'il n'y a plus d'électricité, il ne reste plus que le cash. Hein. Voilà. Alors bien entendu, là aussi, on est dans l'extrême de l'extrême, dans les scénarios. Mais nous, en tant qu'Institut d'émission et Banque centrale, et garant de la continuité, de la stabilité, de la robustesse des moyens de paiement pour nos concitoyens, nous sommes obligés de l'intégrer.
D'autres billets se voient comme une réponse aux crises. Ceux-là ne sont pas fabriqués par la Banque de France. Ils s'appellent Euchko, Florin ou Kern, des monnaies locales complémentaires. La France en compte environ 80, dont la Doum, lancée il y a 5 ans dans le Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, quelques 1200 personnes l'utilisent. Plus de 180 000 Doum circulent sur le territoire, soit autant d'euros garantis en banque qui servent aussi à soutenir les 300 professionnels du réseau. Ce jour-là, c'est jour de marché sous la très belle halle Saint-Joseph à Clermont-Ferrand.
Bonjour, ça va ?
Il est à l'heure.
C'est un marché paysan où circule justement la monnaie locale.
Je pense qu'ils ne prennent pas tous la Doum, hein. Donc il faut leur poser la question.
Grégory Bernard, élu de Clermont et défenseur de la Doum.
Ça a l'air beau, ça. Bonjour. Est-ce que vous prenez les Doum ?
Non, vous ne les prenez pas.
Pas encore, alors.
Je veux bien aimer, mais c'est un peu compliqué pour entrer au niveau comptabilité. Après.
D'accord. Ça marche, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent, donc... Voilà,
moyen de réinvestir dans l'économie locale.
Quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, à plus tard, merci. C'est dommage, il a des beaux fromages. Bonjour. Est-ce que vous prenez les Doum ?
Oui, je prends les Doum.
Ah, ben voilà, c'est parfait. Du coup, je vais vous prendre un peu de miel d'acacia.
Vous le préférez en kilos, 500 grammes ou 250 ?
Je vais prendre un petit.
Très bien.
C'est de la gourmandise.
Ça marche.
Donc, du coup, le petit, c'est combien ? En Doum ?
Alors en Doum, c'est 4,1 Doum.
D'accord. Merci. Je vous en donne 5. Bon, et vous me rendez des euros, mais je les prends quand même.
Ah, pour les petites pièces, oui, on les a pas.
Non, mais oui, ça n'existe pas d'ailleurs.
Oui.
Du coup, vous venez d'où, vous ?
Alors moi, je viens de Haute-Loire. Ah. Moi, je suis apiculteur, donc approximativement 400 ruches.
C'est pas trop compliqué à gérer pour vous dans la trésorerie de l'entreprise ?
Non, ça se fait bien, hein. Après, on troque aussi sur le marché, donc il y a une partie des Doum qui repartent dans le circuit. C'est bon, le but du jeu, en fait. Hein. Enfin, du troc, de l'achat, hein, en Doum avec les collègues du marché. Hein. On nous a fourni une liste d'adresses de personnes qui acceptent la Doum et qui font tourner ça, quoi.
Les commerçants qui acceptent la monnaie locale, généralement, mettent un petit écriteau.
Ouais, c'est ça. Et donc, sur ce marché, on en trouve beaucoup.
Donc ça veut dire que vous, Grégory Bernard, en tant qu'élu à Clermont, quand vous venez faire votre marché, vous avez toujours des Doum dans votre portefeuille ?
Pratiquement, ouais. Alors, des fois, je suis à court de Doum, je suis obligé d'utiliser l'euro, mais sinon, j'essaie plutôt d'utiliser de la Doum, ouais, quand je peux.
Sachant que ça se limite surtout à l'alimentaire, non ?
Alors, non. Mon jean, par exemple, je l'ai acheté en Doum. Voilà, il y a une petite boutique dans le centre-ville qui vend notamment les jeans de la marque 1083, qui est un jean fabriqué
même dans la région, on peut dire pas seulement en France, puisque c'est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en gros.
Donc ça veut dire que relocaliser vraiment la production, ça fonctionne, l'impact il est réel.
Bah, moi, c'est pour ça que du coup, je fais partie de ceux qui ont envie de soutenir cette démarche d'une monnaie alternative, d'une monnaie citoyenne. C'est que je pense que ça a un impact économique local, un impact social, puis aussi bien sûr un impact environnemental, parce que du coup, on est dans des circuits beaucoup plus vertueux. Et donc, quand on injecte de la doum, en fait, on nourrit ce cercle vertueux, en fait, qui fait que du coup, bah, il y a une économie plus circulaire, plus locale, et voilà.
Laissez acheter votre fromage quand même.
Ouais. Il y a la queue de toute façon.
J'ai faim en plus, j'ai envie de manger de la brioche à la tome.
Bah attends, on va s'en faire une
tome. Ouais, je crois.
Tu des doumes à claquer.
C'est vrai ? On va aller sur l'étal du boucher, Didier Archimbaud. Il a été l'un des premiers à accepter la doume.
Bonjour. Voilà la radio qui arrive.
30,68 €.
Oui, c'est ça. Bon week-end, à la semaine prochaine.
Je suis producteur fermier depuis 1991 à Oya Saint-Privat, sur Oya Fla maintenant, sur une petite commune à côté d'Issoire. On produit que localement, donc on vend que localement. On vend que sur Clermont, Issoire et le magasin est sur l'exploitation. Donc la doum est vraiment une monnaie locale et donc ça tombait sous le sens de prendre la doum où on fait travailler l'économie locale. Nous, notre seul souci, c'est de réutiliser la doum, quoi. Moi, dans mon système d'exploitation, c'est l'autonomie maximum. Donc on produit nos céréales, on produit à peu près tout. Donc on n'achète pas beaucoup extérieur. Du coup, après, nous, c'est là où on peut l'utiliser, c'est sur les artisans, les commerçants. Là, j'avais refait faire l'isolation de ma maison. Donc c'était un artisan qui prenait la doum. Voilà, il y a bien que là-dessus qu'on peut passer une quantité de doum suffisante, quoi.
Et verser des salaires en doum, pourquoi pas ?
Oui, mais mes salariés veulent pas. Voilà, donc je peux pas les imposer. Donc voilà, c'est sinon ce serait l'idéal. Oui. Ouais.
Ça vous a fait gagner des clients quand même ?
Un petit peu. Oui, si. Parce que malgré tout, ceux qui utilisent la doum ont une certaine éthique et une certaine charte, donc de bonnes pratiques et de local et de respectueux de l'environnement et des animaux. Donc si, ça a permis de faire connaître l'exploitation. Quoi.
Bon, je vais faire un steak, c'est grave. Bonjour. Bonjour. Votre salle, ça vous va ?
Angèle Drinsard, salariée à la doum.
Daniel Nadal, membre fondateur, est toujours là.
Geneviève Binet, qui m'occupe de la doum sur Clermont.
On est venu dans un café qui prend la doum, parce que du coup, moi, j'en ai mis dans mon portefeuille depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait comme moi ? Est-ce que ce moment de crise sanitaire, où peut-être on s'est un petit peu plus recentré par la force des choses sur le local, est-ce que du coup, ça a favorisé la monnaie locale ?
Oui, c'est beaucoup de gens ont payé en doum, mais peut-être plus, on n'a pas mis dans le porte-monnaie, on utilisait plutôt e-doum.
Donc avec son compte en doum numérique, on peut acheter des doums par carte bancaire. Et ensuite, avec le téléphone portable, on peut régler directement un doum numérique. Je ne sais pas si vous avez quantifié l'augmentation du nombre de gens qui se sont mis à la doum. C'est-à-dire qu'on était à peu près à 2000 e-doum dépensés par semaine. On a vraiment vu une belle courbe décoller pendant cette période-là, oui.
Le contexte est porteur. E-doum a pris la place à cause des contraintes sanitaires et aussi parce que les comptoirs étaient fermés, les magasins étaient fermés. Je pense que le numérique a prouvé sa nécessité quand même pour l'avenir.
Donc c'est porteur pour la monnaie locale, mais après tout, on peut très bien acheter local en euros. Donc quelle différence ça fait ? Quand vous achetez local en euros, la personne à qui vous donnez les euros, elle peut très bien les placer en banque, les dépenser à la métro, et très rapidement, les euros vont sortir du territoire, voire sortir carrément de l'économie réelle, et partir dans les circuits de la finance. Alors que les doums, ben voilà, votre commerçant qui reçoit des doums, vous ne pourrez les dépenser qu'auprès de producteurs locaux. Voilà, les doums vont rester beaucoup plus longtemps en circulation dans l'économie locale, sur le territoire. On a vraiment besoin de recréer des circuits locaux et des circuits complets, en fait. Parce que là, par exemple, il y a eu une pénurie de farine dans les magasins, alors qu'il n'y avait pas du tout de pénurie de farine. Il y avait une pénurie d'emballage de farine. Ça suffit pas de juste produire des denrées alimentaires locales. Il faut aussi prévoir toute la transformation, l'emballage, etc. Et ça, voilà, c'est sur ça qu'on travaille, en fait, depuis le début, nous, de vraiment recréer des filières complètes sur le territoire
Et là, c'est devenu beaucoup plus clair que c'était vraiment un travail nécessaire.
Alors, pour que du coup cette monnaie, elle prenne encore plus d'ampleur, il faut qu'elle offre aussi de nouvelles possibilités. Est-ce qu'on peut faire autre chose avec la Doum que de payer ses légumes au marché, en gros, pour caricaturer ?
Déjà, il y a toutes les corps de métier qui sont à la Doum. D'autre part, on a une réunion tout à l'heure avec des techniciens de la métropole. La métropole a mis dans son programme écologique d'utiliser la monnaie locale dans les régies municipales. Ça se fait déjà dans un de nos groupes locaux, quand la métropole s'y mettra, comme la métropole de Grenoble, comme la ville de Bayonne, là, ça va prendre une autre ampleur.
Oui, quand on pourra aller à la médiathèque, peut-être un jour prendre le tram, les transports en commun, la piscine, voilà, là, ça serait un geste très fort, oui.
Autre monnaie alternative, les crypto-monnaies. Il n'y a pas de pièces, pas de billets. Elles ne sont pas adossées à l'euro. Elles s'affranchissent de toutes les règles monétaires. Pour en savoir plus sur ces monnaies qui paraissent bien mystérieuses pour le grand public, Juliette Micheneau a rendez-vous avec Ariane Tichit sur le campus de Clermont-Ferrand. Elle est maître de conférences en économie.
France Inter, Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Si je prends l'exemple de la monnaie la plus connue, la monnaie décentralisée virtuelle la plus connue, c'est le Bitcoin qui est sorti donc en 2008 et qui a été une véritable révolution informatique. Quelle révolution ça amène de fondamental ? L'idée qu'on peut créer de la monnaie à partir d'autre chose que du crédit. Dans le cas du Bitcoin, c'est le fait de mettre la puissance de son ordinateur au service de la validation de transactions qui fait qu'on est rémunéré en Bitcoin. Et ces Bitcoins qui nous rémunèrent n'existaient pas avant dans le système. Donc en fait, les unités sont créées à travers ce qu'on appelle une preuve de travail qui est la preuve qu'on a participé à la validation des transactions. Et donc ça ouvre un champ de possibles énorme. Donc ça, c'est la première révolution. Et la deuxième, c'est le fait que ce soit décentralisé. Parce que chaque personne qui participe au protocole de ces crypto-monnaies est elle-même créatrice d'unités monétaires. C'est beau. Et en ça, ça amène de la diversité monétaire, puisque là, enfin, on a d'autres créateurs de monnaie. On a d'autres institutions qui vont venir compléter les monnaies standards qui, elles, ne sont émises à partir que d'un seul protocole qui est le crédit et qui est hautement centralisé. Alors, il y a eu une explosion phénoménale donc, de ces monnaies, mais finalement, comme les monnaies locales, hein, si on pense qu'on est à 3000, on sera à peu près aussi à 3000 à l'heure actuelle sur les crypto-monnaies. De toute façon, la monnaie, c'est un bien commun. Et donc, plus il y a de gens qui utilisent la monnaie et plus les gens auront intérêt à l'accepter. Et donc, ça va faire effet boule de neige, quoi. C'est à peine au début de ce qu'on va voir arriver dans les prochaines années. On est à la fin de la monoculture monétaire. Les gens vont prendre l'habitude d'avoir plusieurs cartes ou plusieurs types de billets dans leur porte-monnaie et payer certaines choses avec une unité monétaire qui est différente. Ça, j'en suis mais convaincue, parce que la nouvelle génération là, qui arrive, qui est déjà tellement habituée à la dématérialisation, qui a énormément de choses dans leur vie qui sont dématérialisées, que de se dire c'est libellé voilà, en Bitcoin, en Ethereum, en machin, ça leur posera aucun problème. Et c'est là où ça ouvre un champ de possibles énorme, qui est, on pourrait imaginer d'avoir une unité monétaire qui ne sert qu'à valoriser et à payer les spectacles, par exemple. J'entrevois simplement tous les possibles si, justement, le politique, notamment, et c'est le même problème qu'on a sur les monnaies locales, c'est si le politique s'en empare. C'est vraiment un domaine de liberté possible retrouvée pour le système public qui, pour moi, est énorme, est vraiment énorme. La seule difficulté à laquelle nous sommes confrontés, ce sont les mentalités où les gens, l'argent, ça fait peur parce que voilà, c'est basé sur la confiance. Et pour l'instant, quand on comprend pas encore vraiment qu'est-ce que c'est par essence une blockchain, ça fait peur. Mais une fois qu'on a mis les pieds dedans, qu'on a travaillé un peu avec les informaticiens pour comprendre, etc., c'est vraiment fascinant. C'est un objet fascinant, quoi.
Alors c'est peut-être plus simple quand ça devient concret. Comme avec Clean Planet, une plateforme qui rémunère en crypto-monnaie les citoyens qui se filment en train de ramasser des déchets.
Ah, regarde donc, voilà. Du plastique, ça va à la poubelle.
C'est Yannick Rodriguez qui a eu l'idée. Il nous a donné rendez-vous dans un bar de Clermont-Ferrand qui forcément accepte les crypto-monnaies.
Alors, je m'appelle Yannick, j'ai 44 ans, je suis infirmier libéral sur l'agglomération clermontoise.
Donc vous n'êtes pas un start-upper ou un spécialiste de la blockchain?
Absolument pas. Je suis tombé dedans grâce à mon ami Sylvain. On est basé sur une blockchain qui permet la récompense de l'auteur d'un article. Et je me suis dit, pourquoi pas récompenser celui qui ferait un acte éco-citoyen de ramassage des déchets dans la nature? On pourrait le récompenser en crypto-monnaie.
Eh ben bonjour, moi c'est Sylvain, j'ai 39 ans, je suis clermontois. Je m'intéresse aux crypto-monnaies depuis 2018 avec l'arrivée du Bitcoin. Avec Yannick, un jour, il est venu avec une idée à la maison et on a pu lier son idée avec l'idée d'une nouvelle blockchain qui s'appelle Steam et de l'utilité de récompenser les gens qui font un acte éco-citoyen à travers de la crypto-monnaie. La base est simple. Steam, pour bien comprendre, c'est un réseau social et c'est le premier qui a été fabriqué, monté sur une blockchain. Donc ça veut dire que chaque personne qui va publier un article, un contenu vidéo, un contenu photo, il en est le propre auteur, il a sa propre clé de publication, donc il n'y a que lui qui pourra faire une modification, supprimer ou laisser ce contenu. Après, comme un réseau social, les gens, la communauté qui est inscrite, va pouvoir le voter. Comme sur Facebook, on met un like, sur la plateforme Steam, on appelle ça un upvote, donc un vote vers le haut. Et ce vote, en fait, il est à la fois récompensatoire sur le fait de valider ce que le contenu propose, mais du coup, comme il est sur une blockchain liée à une crypto-monnaie, le vote, en plus, va distribuer un certain pécule de crypto-monnaie. Donc là, en l'occurrence, le Steam. Donc nous, on est parti sur ce sujet de se dire, les gens qui sont sur cette plateforme, il y a un peu plus d'un million d'utilisateurs, utilisent au quotidien le upvote, donc leur pouvoir pour récompenser des gens, le faire de façon utile, intelligente pour l'environnement. Donc c'est pour ça que nous, à travers l'acte éco-citoyen, le fait de ramasser et de se filmer ou de faire une photo, de le publier, de le partager, est à la fois gratifiant parce que les gens vont voir ce qu'on a fait, on va avoir des retours, commentaires et des votes, mais aussi une partie crypto-monnaie qui vient en fait de chaque personne qui a voulu voter ce contenu. Et sur des plateformes comme celle-là, il y a des personnes qui vont pouvoir récompenser à hauteur de quelques centimes jusqu'à plusieurs centaines d'euros.
Où est-ce qu'on est là?
Là, on est sur le Steemit. Sur Steemit, c'est le réseau social en fait de la blockchain Steam.
Et donc cette application, là, on le voit sur l'écran, ça se déroule. On a presque l'impression d'être sur un fil Facebook en fait, avec des profils,
avec
des
filtre,
vidéos.
Clean Planet. Je vais lancer la vidéo. Une connaissance du Bangladesh.
Hello friend, good morning. Today I will clean my area.
Voilà. Il est allé très vite pour sa présentation et on le voit ramasser tous les plastiques qu'il va trouver par terre, les accumuler dans un sac, nous prouver la date du jour, donc le 20 janvier, hein, et le mettre directement dans ce qu'il appelle lui son container d'évacuation des déchets qui sera ramassé par la municipalité. Alors effectivement, donc on a la petite flèche vers le haut, c'est le upvote qui a reçu cet utilisateur par Clean Planet. À côté, on a la somme correspondante en dollars.
Ouais, parce que là, il a reçu 52 votes et du coup, ça commence à grimper à un peu plus de 6 dollars.
Voilà, une équivalence en 6,38 $.
Et alors du coup, ça fonctionne? C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des comportements vertueux grâce aux crypto-monnaies?
Oui, absolument. On a déjà le réseau Clean Planet est mondial. On a amené sur la plateforme une trentaine de pays et on a actuellement, je pense, distribué plus de 2000 dollars de récompenses en un an et demi.
Et voilà, deux petits cons, je sais pas trop. Un Perrier.
Donc on te paye en Steam ?
En Steam ?
Ouais.
Faire le calcul déjà.
Ouais, comment on calcule justement combien ça vaut ?
On a plein de convertisseurs en fait qui existent. Il suffit simplement d'aller en trouver un qui se met à jour en direct. Convertir. 115 Steam, 96 aussi.
Vous acceptez combien de crypto-monnaies ici ?
On a accepté une dizaine, pas plus. On va sur les grandes valeurs, le Bitcoin, l'Ether. Moi, je vais plutôt faire la variation selon les portefeuilles qui sont accessibles et les temps de validation de paiement.
Et après, au niveau de votre commerce, vous faites comment ? Vous avez une double comptabilité ?
Non, c'est intégré directement dans ma caisse. En fait, j'ai l'option paiement, comme genre paiement en carte bleue, j'ai le paiement en crypto-monnaie.
Votre comptable, il est d'accord avec tout ça ? La banque, elle reconnaît tout ça ?
Quand j'ai ouvert l'entreprise, c'est la première chose que j'ai demandé à ma comptable. J'ai dit, comment on fait pour intégrer les paiements en crypto dans la boutique ? Et ça a renseigné. Et pour l'instant, il n'y a pas de vraie réglementation. On accepte la crypto. Nous, on paye des taxes dessus uniquement si on le transforme en euros. Sinon, ben, c'est considéré comme une chaise, quoi, simplement.
C'est-à-dire que cette monnaie est immobilisée. Et voilà. Donc finalement, ça se gère plutôt bien, alors.
Voilà, ça se gère plutôt facilement. C'est juste une petite habitude à prendre et gérer un peu les mouvements, savoir se dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, la crypto valait... Là, ça fait 115 euros, ça fait l'équivalent de 17 euros. 115 estimes. Ça se trouve, demain, les 115 estimes ne vaudront plus que 10 euros. Après, il ne faut pas avoir peur de se dire, ben, je les mets de côté, j'attends. Comme au début, hein, moi, je me rappelle au tout début, mes premiers bitcoins, je les ai payés 50 centimes d'euros. La valeur aujourd'hui est à peu près à 6, 7, 8, 8 000 euros, le bitcoin. Je ne suis pas mécontent d'avoir acheté des bitcoins à 50 centimes.
Et on va trinquer à la crypto.
Santé au Steam alors. Hein.
Santé.
Voilà pour l'argent virtuel, mais dans le magasin où on va, pas d'argent du tout. On est à Saint-Bonnet près Orcival, un petit village d'environ 500 habitants, au milieu des volcans d'Auvergne. Et dans le bourg, il y a le Sampèze, un magasin approvisionné par les dons et où tout est gratuit.
Bonjour.
Il est parti.
Francine.
Enchantée.
Juliette.
Bonjour.
Bon, on va pouvoir faire des courses, c'est ça?
Ouais. Gratos.
Gratos.
Ouais.
Sans rien.
Ouais. C'est fait bizarre la première fois.
C'est vrai?
Ouais.
C'est-à-dire que les gens vous disent quoi? Ah, ils sont troublés?
Les gens, ils sont hyper troublés la première fois. Ils sont très gênés de prendre quelque chose sans rien donner. Ce qui fait qu'on a une petite caisse d'ailleurs, pour leur libérer l'esprit.
C'est-à-dire vous avez mis en place une caisse?
Regardez, nous avons un miroir-caisse. Qui est là. Donc un petit miroir avec une petite caisse. Regardez comme vous êtes beau quand vous êtes généreux.
Merci beaucoup.
Ça marche très bien. On a empoché plus de 200 euros de dons l'année dernière. Enfin, en 6 mois l'année dernière. Ce qui fait que la survie de l'établissement est assurée.
Cette absence d'argent, cette absence de transaction, ça fait une vraie différence.
Ça fait une différence énorme. Ça fluidifie merveilleusement tout. Alors déjà, notre fonctionnement est très très simple. Il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de compte à tenir, les enfants peuvent nous aider, c'est super simple.
Ça enlève toutes les barrières sociales, enfin voilà, ça ne crée pas de différence entre les personnes. Bon, on veut essayer d'amener ça, quoi. C'est pas parce qu'on vient ici qu'on manque de moyens. Voilà, c'est qu'on a envie de fonctionner autrement, de consommer autrement aussi, surtout aussi.
Moi, j'ai regardé, hein, je me suis interrogée, on fait de réelles économies. Hein. Moi, cette année, j'ai fait un décompte de ce que j'ai, alors doudoune, un peu de matos de cuisine, un peu de matos de bricolage, de la papeterie, des cadeaux. On a fait beaucoup de cadeaux. Je n'ai pas dépensé 300 euros en 6 mois. Donc c'est de l'argent qu'on peut mettre ailleurs. Moi, je crois que ça amène vraiment quelque chose de... C'est peut-être un peu niais comme terme, mais de tendre dans les relations. Finalement, on a tous quelque chose à amener aux autres. Non, mais c'est vrai.
Evelyne, c'est typique. Evelyne,
parlons de notre histoire.
Evelyne, je l'ai fréquentée pendant des années devant l'école primaire. Je pense que c'est par timidité. On arrivait à peine à se dire bonjour. Hein. C'était difficile de lier le contact. Elle vient tous les dimanches, Evelyne.
Moi, j'aime bien, ça change, puis ça fait voir autre chose, parce que c'est pas banal, un magasin comme ça.
Qu'est-ce que vous venez chercher, vous, ici?
Ben, des fois, bon, comme je suis assistante maternelle, des fois, c'est des jouets, des livres, des petits vêtements. Puis des fois, j'en amène. De la vaisselle. J'avais amené des peluches, c'est vrai que... Mais depuis que c'est ouvert, moi, j'aime bien.
Et la première fois qu'on vient, on ose prendre comme ça?
Eh ben c'est compliqué. Parce que même j'ai entendu des gens qui disaient mais on n'ose pas prendre parce qu'on a tellement l'habitude de payer en somme que c'est vrai que c'était vraiment original.
Alors là, on est à l'échelle d'une boutique sur des objets de récup. Vous imaginez, soyons fous, une société où l'argent n'est plus là?
Bah, disons que c'est, je sais pas, après c'est un peu utopique maintenant de se dire ça hein, tout de suite là. Mais bon, voilà, c'est vrai que depuis juillet qu'on a ouvert, ça a été surprenant quoi de voir 80-100 personnes les dimanches matins qui viennent voilà, se servir ou donner des choses. Moi, j'ai été très surprise de ça, quoi. Ça correspond à quelque chose, quand même. Une envie de faire autrement. Hein. C'est réconfortant, quoi, aussi, quand même, de savoir qu'il y a d'autres façons de penser. Enfin, voilà, ça fait du bien, quoi.
Il y a aussi, sur cette question de la gratuité, des gens qui sont très contents de participer. Par exemple, on nous a amené du café la semaine dernière. De la brioche, une dame qui a pris une machine à pain et qui, la semaine d'après, a amené la brioche qu'elle avait fait à partager avec la machine à pain. Voilà, c'est des petites étincelles de vie, c'est pas grand-chose, mais ça met quand même une bonne ambiance, quoi.
Donc il n'y a pas d'argent, mais ça crée de la richesse.
Ouais.
Ah bon, c'est ça, ouais. On est beaucoup plus riche d'autres choses plus importantes, quoi.
1, 2, 3, 4, 5, voilà, boum.
Et si nos espèces étaient en voie de disparition, c'était un reportage de Juliette Micheneau, Loïc Frénéa à la prise de son, réalisation Violaine Ballet. Vous pouvez retrouver ce reportage, déjà disponible à la réécoute, sur franceinter.fr. 1, 2, 3, 4, 5. Dans un instant, c'est le remède à la mélancolie d'Eva Bester.